With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour votre podcast consacré à la Formule 1. Après un crochet spectaculaire à Miami, la tribu de la Formule 1 revient sur le vieux continent avec le Grand Prix d'Espagne, sixième épreuve de la saison. Et on enchaînera le week-end suivant avec Monaco. Salut Stéphane, t'es prêt pour cette séquence européenne?
Oui, traditionnelle en fait. On retrouve Mugello et puis les repères du début de saison, de l'intersaison.
Exactement.
Ça va être riche en enseignements.
Aujourd'hui, on a un invité de marque qui a triomphé aux 24 heures du Mans au volant d'une auto française. Éric Hélary, vainqueur en 1993 avec la Peugeot. Il viendra nous dire ce qu'il pense de la F1 d'aujourd'hui, de cette saison 2022. Et connaissant son franc-parler, je pense qu'on va passer un bon moment, Stéphane. On évoquera aussi la zizanie au cœur du peloton derrière Ferrari et Red Bull. Bien difficile de distinguer une hiérarchie entre Mercedes à la peine devant ce qu'on appelle le midfield, McLaren en mode on-off et Alpine qui enchaîne les occasions manquées. Et puis enfin, on évoquera le duel entre Ferrari et Red Bull, entre Charles Leclerc et Max Verstappen, parce que le Monégasque et la Scuderia sont désormais à portée de tir du champion du monde et de son équipe. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Allez, comme promis, Stéphane, on prend la direction de la région toulousaine. On va retrouver alors quelqu'un avec qui j'ai partagé quelques heures en cabine de commentaires. Vainqueur des 24 heures du Mans en 1993 chez Peugeot, Éric Hélary. Bonjour Éric.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va plutôt bien. Et toi?
Bah écoute, moi je me mets à l'ombre parce qu'il fait chaud à Toulouse, mais ça, vous pouvez pas comprendre.
J'imagine bien. Donc là, tu es dans ton garage, c'est quoi? On voit un capot rouge derrière toi, qu'est-ce que c'est là? Sur quoi tu bricoles?
C'est une belle petite voiture, vous reconnaissez?
Oui.
Ah bah je veux, oui.
Petite F40?
Une petite F40, mais surtout la F40 parce que c'est l'ancienne de Michael Schumacher.
Ok.
Ah bon. Oui, ça te pose bien là.
On va pas donner ton adresse alors.
Pas mal. Justement, j'ai pas d'enseigne, j'ai rien, et je dois dire que je me fais un peu désirer et j'aime pas trop qu'on vienne chez moi.
D'accord.
C'est pas moi, c'est pas ma voiture, bien sûr.
Évidemment.
C'est une voiture d'un client.
Bon, Éric, on va parler avec toi de cette Formule 1 qu'on aime tant. Première question, attaquons dans le vif du sujet, on reste sur le Grand Prix de Miami. Quelle impression t'a donné ce Grand Prix avec le folklore, les invités, ce circuit, le décorum un petit peu particulier?
Moi, j'ai fait Le Mans avec Martin Brundle. Je dois dire que je suis assez d'accord avec lui de voir tout ce défilé de gens qui ne sont pas forcément des passionnés de Formule 1. Je trouve que c'est peut-être bien, ça apporte peut-être un peu de show, mais bon, je vois pas trop ce que ça vient faire là. Puis en tout cas, il y en a qui sont effectivement assez comment dire, m'as-tu vu? On est d'accord?
Ça développe un peu le côté business quand même, c'est ce qu'attendent aussi des patrons d'équipe.
Oui.
Il y a quelqu'un comme Zak Brown qui insiste beaucoup, et c'est vrai, sur le fait que les écuries maintenant ne sont plus en état de survie, elles commencent à gagner de l'argent grâce à toute cette effervescence. Après des années Ecclestone où la pénurie un petit peu est organisée. Donc ça, c'est quand même bon pour le développement du sport.
À mon avis, ça fait déjà quelques années qu'ils gagnent de l'argent en Formule 1. Parce que quand tu regardes certaines écuries, elles ont construit des dynasties. Tu parles des McLaren, mais je me rappelle de l'usine qu'ils ont ou qu'ils avaient. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et puis, je crois même que c'était l'équipe ou la société qui payait le plus d'impôts en Angleterre avec Williams à un moment. Donc je pense que ça fait quelques années qu'ils gagnent de la F1, qu'ils gagnent de l'argent en F1.
Éric,
je me trompe?
Ça dépend des équipes. Je pense que c'est très aléatoire, c'est mal partagé. En fait, les situations sont très différentes d'une équipe à l'autre. Toi, comment tu vois cette saison 2022 dans son ensemble. On a le sentiment qu'il y a quand même un petit peu plus de sérénité que ce qu'on a vécu l'année dernière en 2021 et avec le duel entre Hamilton et Verstappen.
Alors, je dois dire que c'est complètement différent, on l'a tous remarqué. Déjà, comment se fait-il que McLaren, que Mercedes se soit loupé autant? Parce que tu te dis, bon, chez Red Bull, tu as une personne qui dessine la voiture. Il aurait pu se louper, il ne s'est pas loupé. Chez Mercedes, ils sont peut-être une cinquantaine d'ingénieurs. Comment on fait pour se louper autant? Et puis, ce n'était pas qu'au premier Grand Prix, hein, ça continue de durer. Ça, c'est une vraie question quand même.
Et chez Ferrari, le regain, quand même, c'est ce qu'on attendait. Ça faisait longtemps qu'ils se préparaient.
Ça faisait longtemps qu'ils se préparaient. Bon, je pense qu'ils se sont fait un peu prendre les doigts dans le pot de confiture avec leur moteur et je pense qu'ils ont été punis. Là, ils reviennent. On en est tous très contents. Ils ont une bonne voiture. Ils avaient la meilleure voiture dès le début du championnat et j'espère qu'ils vont garder cet avantage parce que c'est vrai que les autres remontent quand même au fur et à mesure. On voit que Red Bull est de plus en plus pressant et ils sont même pratiquement devant aujourd'hui. J'espère que Charles va aussi arrêter de faire des petites erreurs parce que ça coûte cher finalement à Ferrari. Et j'espère quand même que Mercedes va revenir et j'y crois. J'y crois vraiment parce que je trouve que c'est un peu un gâchis quand même depuis le début de l'année de voir Russell qui est toujours devant Hamilton. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup de réussite et Hamilton n'en a pas. Et surtout, j'espère qu'ils vont avoir une vraie voiture et qu'ils vont revenir dans le match et que ça sera un beau match à 3 voire 4.
On a beaucoup parlé, Eric, depuis le début de la saison, de ce phénomène de marsouinage, les voitures qui pompent. On se posait la question avec Stéphane en préparant cette émission. Est-ce que toi, à ton époque, t'as roulé avec une voiture qui t'a donné ce genre de problème?
Parce que c'est un phénomène quand même qui est connu, répandu en proto.
Oui, justement, la 908 était soumise à ce phénomène au départ, en tout cas au Castellet. Juste avant Signe, elle se mettait à pomper très fort. Et c'est vrai que c'est des soucis qu'on rencontre que sur un circuit. C'est bien pour ça d'ailleurs que la plupart des équipes se sont faites avoir. Évidemment, tout le travail de soufflerie se fait sur un tapis roulant qui n'a pas une bosse. Et donc la voiture est mesurée avec une assiette constante et sur un sol parfaitement droit, ce qui n'arrive pas en F1 évidemment sur les Grands Prix. Et cette année, dès qu'ils ont posé les voitures sur les circuits normaux, bah, elles se sont mises à marsouiner. Et c'est très compliqué à gérer le système, visiblement, parce qu'ils n'ont toujours pas réussi. En tout cas, ceux qui étaient en proie à ce problème le sont toujours. Et Mercedes, d'ailleurs, dès qu'ils descendent leur voiture, se met à se dérober et à marsouiner. Et donc, ils roulent trop haut. Mais bon, évidemment, ils n'ont pas de perf.
Est-ce que tu peux nous dire, de ta propre expérience, la limite du supportable pour un pilote quand une voiture comme ça rebondit?
Je pense que la Mercedes est... à la limite du supportable, on l'a vu dans les caméras de face, c'est carrément insoutenable pour les pilotes, franchement. Et en plus, la voiture se dérobe, parce que quand elle remonte d'un coup, évidemment, ça déleste les roues et la voiture part en survirage. On a eu le plus bel exemple avec George Russell en qualif à Miami. On voit que même à haute vitesse, la voiture, lorsqu'elle remonte, hop, elle décroche du train arrière. Et c'est pour ça qu'il a abordé son tour rapide.
On va justement revenir un petit peu sur l'actualité, sur Miami. Il y a des choses, je suis curieux d'entendre ton avis. À Miami, on a beaucoup parlé de bijoux, avec, tu sais, cette polémique où le nouveau patron de la FIA veut faire observer les règles de sécurité sur l'interdiction de porter des bijoux. Et puis on a vu, et aussi l'obligation de porter des sous-vêtements ignifugés. Et on a vu deux champions du monde s'élever contre cette décision. Lewis Hamilton qui veut garder ses bijoux et son piercing. Et puis Sébastien Vettel qui veut garder son caleçon. Toi, tu roulais déjà quand tu avais ton piercing ou pas?
J'ai jamais eu de piercing, Gilles, mais merci de me le reprocher.
Tu dois me tromper de consultant alors.
Non, mais en fait, je ne comprends pas très bien comment des pilotes qui veulent piloter en toute sécurité ne veulent pas enlever leurs bijoux et ne veulent pas mettre des sous-vêtements ignifugés. C'est quelque chose qui me semble logique. Les bijoux, effectivement, en cas de feu, et Romain Grosjean devrait être là pour soutenir ça, Un bijou, ça brûle, ça s'incruste dans la peau. Et de ne pas avoir de sous-vêtements, c'est pareil. On croyait les F1 hors d'atteinte du feu. C'est pas vrai. On a vu qu'en cas de crash important, le réservoir peut s'ouvrir et le pilote se retrouver au milieu des flammes. Donc oui, je trouve que c'est logique de ne pas avoir de bijoux et de mettre des sous-vêtements ignifugés. En voiture historique, on nous l'impose, et c'est vrai que c'est pas toujours rigolo, mais je pense que si on a un crash, on est bien content de les avoir.
Alors la FIA a mis sur la table aussi la question de la gouvernance des directeurs de course, de leur identité, et il est question d'un retour de Michael Massi qui avait fait une controverse lors du dernier Grand Prix de 2021. Il serait question d'un retour de Michael Massi l'an prochain. Est-ce que ça serait une bonne chose pour toi ou est-ce que c'est une mauvaise idée?
Alors, je suis un peu mitigé sur le sujet parce que j'ai été dans les deux camps, à savoir que j'ai été pilote et qu'à la place de Hamilton, franchement, je serais outré que ce gars-là revienne parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il a quand même coûté le titre à Hamilton l'année dernière. Même si sur l'ensemble de la saison, Verstappen avait amené vraiment un regain de jeunesse et qu'il mérite son titre, je suis désolé, mais si Masi n'est pas là. Au dernier Grand Prix, c'est Hamilton qui est champion du monde. Donc pour moi, il a fait une erreur impardonnable. Par contre, d'un autre côté, moi qui étais en direction de course chez SRO, je peux vous assurer que je n'aurais pas aimé du tout avoir à gérer ce Grand Prix maudit parce que franchement, pour un directeur de course, comment veux-tu prendre la bonne décision? C'était juste impossible. Parce que dans le règlement, il fallait laisser repasser toutes les voitures, on est bien d'accord. Et dans ce cas-là, on aurait eu une arrivée sous safety car. Ce qui, franchement, pour un dénouement de championnat du monde, ne doit pas arriver. Et donc, Masi, il a fait du mieux en interprétant plus ou moins le règlement, mais en faisant ça, il a attribué le titre à Hamilton. Donc,
Non, à Verstappen.
oui, à Verstappen, pardon, c'est vrai. Et donc, les deux camps se défendent, mais franchement, je pense que Masi, il a pris la mauvaise décision et faudrait. Surtout qu'il y en a plein d'autres qui sont capables de faire ça. Il n'a pas eu de chance, il n'était pas là au bon moment et au bon endroit. Et pour moi, il n'a plus rien à faire là, quoi.
Alors, la question, le nouveau président de la FIA se dit que finalement, on lui a confié trop de missions à Michael Massi l'année dernière. Le fait aussi que les patrons d'équipe pouvaient s'adresser directement à lui,
Évidemment,
ce qui
c'est
n'est
une
plus le
erreur
cas.
monumentale.
Finalement, est-ce que dans un autre cadre, il ne pourrait pas redevenir un directeur de course de Formule 1 parfaitement valide, valable?
Si, mais encore une fois, il a un drapeau noir au-dessus de la tête. Donc, pourquoi le remettre lui, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont très bons et qui, eux, n'ont pas fait d'erreur. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir discuter avec les chefs d'équipe, c'était une erreur monumentale. Moi, quand j'étais chez SRO, on n'avait pas de radio nous permettant de discuter. Qu'est-ce qu'il faisait? Il m'envoyait des textos en disant: « Ah non, mais mon pilote, c'est pas de sa faute, etc. » Donc, ça ne devrait pas pouvoir exister. C'est déjà assez compliqué de juger des faits de course sans avoir toutes les images, sans avoir toujours les bons angles, etc. Si en plus tu reçois des messages plus ou moins codés, en plus c'est des gens intelligents, les gars, donc ils t'envoient des petits messages subliminaux, c'est juste impossible. Donc c'est vrai que tout le système était mal fait. Maintenant, encore une fois, le remettre lui, pourquoi lui, quoi? Je sais pas.
Je me permets juste de préciser, hein, quand tu parles de SRO, c'est Stéphane Rattel, organisation, c'est un grand
Oui.
organisateur de belles
Ah
courses de
oui,
GT notamment.
oui, et donc toute la saison, pendant 2 ans, 2 ans et demi, j'étais à la place de Michael Masi pour juger tous ces faits de course. Et franchement, c'est très compliqué, très compliqué. Et en plus, quand tu as toutes les caméras du monde braquées sur toi et que tu as tous les team managers qui t'envoient des textos ou qui t'appellent, c'est juste ingérable.
Alors, il y a eu
Et je
d'autres cas
pense
de
que j'aurais
figure. La
parce que.
nouvelle direction de course a tranché aussi sur des choses importantes. Fernando Alonso a eu 2 pénalités de 5 secondes au dernier Grand Prix, dont une pour avoir coupé un virage, en avoir tiré un avantage durable. C'était l'explication de la FIA. Et donc, il a été puni pour ça. Quel est ton point de vue là-dessus? Son gain, c'était 2 à 3 dixièmes. L'équipe a expliqué qu'il lui avait donné l'ordre de lever un petit peu le pied, ce qu'il n'a pas fait apparemment, ou pas comme il fallait. Mais on se dit quand même que quand on coupe un virage, normalement, il y a
un bac à gravier, donc c'est quelque chose de punitif. Alors s'il a la chance de couper un virage et de continuer la course, c'est déjà bien, mais à un moment donné, il faut une sanction, il faut une punition.
La sanction et la punition, elles étaient assez strictes au début du Grand Prix. On a dit, on ne coupe pas. Bon, bah, si tu coupes, il faudrait que tu aies une... Non pas que tu retombes à zéro au niveau de ton temps, mais d'être puni carrément.
Oui.
Donc maintenant, ils ont tous les moyens nécessaires pour lui dire, bah, tu rends 5 dixièmes, tu rends une seconde. Et au moins, tu es pénalisé.
Est-ce que ça te fait plaisir, là, on a eu les 6 heures de Spa en endurance et on a vu réapparaître des bacs à gravier autour du circuit de Spa-Francorchamps. Est-ce que finalement, c'est pas ça la bonne décision? Parce que là, pour le coup, un pilote, il court circuit, il passe par le bac à gravier, il y a une sanction, il perd du temps, il ramène du gravier dans la voiture. Quoi qu'il arrive, on ne discute pas cette sanction. Est-ce que c'est pas ça, en fait, la solution?
Et bien sûr que c'est ça. Bien sûr que c'est ça, parce que je suis désolé, j'adore le Castellet, c'est une belle piste, on s'amuse bien. Malgré tout, si tu te loupes, qu'est-ce que tu fais? Tu passes dans le bleu, tu passes dans le rouge et il ne se passe rien. Donc, même pour un pilote de passer signe à fond, je peux te dire qu'avant, quand il y avait des bacs à sable, quand il y avait des grillages, c'était un tour de force. Aujourd'hui, tu passes à fond, bah, si tu te loupes, tu sors à l'extérieur et puis il ne se passe rien. Alors, je suis d'accord, le danger, il faut l'éviter, mais bon, ça fait malgré tout partie intégrante du sport automobile. Et le jour où il n'y aura plus aucun danger, il n'y aura plus de sport automobile. Donc, il faut trouver un juste milieu entre les virages. Il y en avait quelques-uns, des virages. Il y avait Gravenoire à Rouen, il y avait à Charade, pardon. Il y avait quelques virages à Rouen, la descente, pour passer à fond, bah, fallait en vouloir. Et le Castellet, c'est pareil. Et le Nürburgring, le grand tracé du Nürburgring, t'as pas beaucoup de dégagement, mais ça crée un vrai engouement. Donc, il faut réussir à trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que d'avoir des circuits où tu peux couper de partout, ça rime à rien, franchement. Enfin, moi, ça, je suis peut-être de la vieille école, mais c'était mieux avant quand même.
J'ai une petite question à te poser sur... là, il y a des échanges pour essayer de faire en sorte que éventuellement les 24 heures du Mans en 2024, ne tombent pas en même temps qu'un Grand Prix de Formule 1, ce qui permettrait à des pilotes et à certains constructeurs d'ailleurs de participer aux deux compétitions. Est-ce que tu te frottes les mains en te disant qu'on va pouvoir avoir des Charles Leclerc, des Max Verstappen au départ des 24 heures du Mans 2023? Ou est-ce que pour toi, c'est deux choses différentes?
Non, je me frotte les mains. Gilles, tu es d'accord avec moi, on aime tellement Le Mans qu'on veut des Alonso, on veut des pilotes de F1, on veut des écuries de Formule 1, on veut qu'il y ait le plus de monde qui soit au Mans et qui regarde Le Mans à la télé. Et pour ça, il faut qu'effectivement, ça ne soit pas le même week-end qu'un Grand Prix de Formule 1 et que tout soit focus sur Le Mans et la semaine d'après sur les F1. C'est quand même mieux que l'audimat ne se partage pas entre un Grand Prix de Formule 1 et Le Mans. Le Mans, c'est magique. C'est à lieu une seule fois par an. Donc effectivement, pour moi, il ne devrait pas y avoir de Grand Prix de Formule 1. Mais c'est vrai qu'avec le nombre de Grands Prix de F1 qu'il y a et qu'il y aura dans les années futures, tu te demandes si ça va être possible.
Tout à fait. Alors on en vient à ce qui se passe sur la piste. Et on se pose quand même la question, tous... Est-ce que Leclerc est du niveau de Verstappen, pour toi?
Écoute, Verstappen, je pense que là, on est quand même sur du lourd, du très lourd. c'est quand même, il a réussi à faire tomber l'établissement entre gagner un titre de championnat du monde contre Mercedes et contre Hamilton. Franchement, il y a été, il a gagné et ça a été juste incroyable. Et puis là, pareil, il fait un début de saison qui est juste top. S'il n'abandonne pas, franchement, il est en tête du championnat du monde et de loin. Il est vraiment fort. On l'avait vu. Moi, où il m'avait vraiment étonné, c'était au Grand Prix du Brésil, quand il a plu. Alors, je ne sais plus trop quelle année, c'était il y a 3-4 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il prenait un virage tout à l'extérieur. C'était le seul à le faire. Un truc à fond de 5. Là. Et même les patrons d'écurie avaient indiqué après à leur pilote par la radio. Les gars, essayez de passer à l'extérieur. Là. Il n'y en a aucun qui l'avait fait. Et c'est vrai qu'il est juste magistral. Le gars, il est fort en qualif, il est fort en course. Il fait pratiquement plus d'erreurs. Puis il est jeune. Il est jeune, le gars. Donc, Leclerc, est-ce qu'il est bon? Oui, il est forcément très bon. Est-ce qu'il est aussi bon? Je n'en suis pas sûr, quand même. Il fait pas mal d'erreurs, Charles. Je l'adore aussi, mais il fait... Il sort pas mal, même là, à Imola, il doit faire deux, les doigts dans le nez, il se met dans le mur, c'est un peu dommage.
Et Russell, quand même, chez Mercedes,
Est-ce que c'est une énigme ou est-ce qu'il est potentiellement aussi bon que Hamilton? Est-ce qu'il tire parti pour l'instant des circonstances ou est-ce que c'est vraiment un gros calibre?
Bon, c'est un gros calibre. Après, il faut quand même regarder les Grands Prix dans le détail. Hamilton, il a vraiment pas de pot, quoi. Ça fait des années qu'il a un pot incroyable. Mais là, depuis le début de l'année, quand il y a un safety car, c'est pour lui. Quand il y a une stratégie à pas adopter, c'est pour lui. Il a vraiment pas de pot. Après, il a toujours conduit des très bonnes voitures. Il a toujours eu la motivation pour bien les conduire et pour driver son équipe en avant. Là, je pense qu'il est juste un peu dégoûté de ce qui se passe depuis le début de l'année. Clairement, la Mercedes, elle n'avance pas. Et puis, c'est vrai que Russell arrive, pour lui, tout est beau, tout est génial. Il était dans une petite écurie. Il se retrouve chez Mercedes, donc forcément, il est plus motivé que ne l'est Hamilton. Par contre, je suis persuadé que quand Mercedes va revenir devant, Hamilton, il va retrouver de sa superbe.
Mais justement, c'était la question que je voulais te poser. Justement, toi, tu as gagné les 24 heures du Mans avec Peugeot, qui avait déjà gagné l'année d'avant, qui était une incroyable armada. Tu as aussi été, tu as fait du DTM, tu as fait vraiment des grands championnats, à chaque fois dans des grandes équipes. Mais tu as aussi connu des situations, j'imagine, où le matériel était un petit peu en retrait, tout ça. C'est le même métier de pilote quand on doit aller chercher la victoire ou quand on doit essayer de choper des opportunités?
C'est pas le métier. Et c'est pour ça qu'il y a plein de pilotes de F1 qui ont fait des années de Formule 1 et qui n'ont jamais gagné. Et franchement, je les envie pas. Moi, avec mon pote à Yellow, on en a souvent parlé, on a préféré faire nos carrières en gagnant des courses tous les ans pendant des années, même si c'était pas de la F1. Plutôt que d'être en F1 pour espérer éventuellement rentrer dans les points pour une 10e place. Et je pense que Hamilton, ça ne l'amuse pas du tout de se bagarrer pour passer en Q2. Et puis pareil, la dernière fois, il dit « je finis 9e, est-ce qu'il y a un point pour cette place-là » quoi. Le type, il s'en fout complètement et je le comprends à 100%. Ce n'est pas le même métier.
Et on se pose la question aussi sur un jeune pilote, Mick Schumacher. Est-ce qu'il a un vrai talent, quelque chose? Est-ce que c'est le pilote du futur? Moi, il me fait personnellement un petit peu penser à Piquet Junior ou à Bruno Senna. Ils viennent d'une grande lignée, mais il n'y a pas exactement le talent du père.
Ou de l'oncle.
Ou de l'oncle. Après, c'est vrai que pour être pilote, bon pilote, il faut des prédispositions. Après, pour être excellent pilote et pour être multiple champion du monde, ce n'est pas la même chose. Un gars comme Schumacher, Michael, il avait faim, il sortait de nulle part. Moi, je me rappelle de lui, on faisait des courses de cartes ensemble. Il faisait sa mécanique tout seul, il était dans le cambouis jusque-là, ils n'avaient pas trop de thunes. Senna, bon, lui, il en avait, mais il voulait prouver au monde entier que le Brésil était un beau pays. Et puis bon, c'était toute sa vie. Mick Schumacher, il pilote bien, il est en F1, bon, bah voilà. Mais est-ce que c'est toute sa vie? J'en suis pas sûr. Bruno Senna, c'est pareil, est-ce que c'était toute sa vie? J'en suis pas sûr non plus. Donc, tous les grands pilotes, ils avaient quelque chose en plus quand même.
Ben, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que le temps passe, mon cher Eric, et que on a fait à peu près le tour des questions qu'on voulait te poser. On va te laisser retourner sur ta F40.
Et maintenant,
oh là là,
elle est belle. Hein.
Ben, dis-lui qu'on arrive. Ah, ben voilà. Ça a coupé, tu vois, comme quoi.
Ça, tu vois, quand elle entend ça. Mon téléphone, il préfère s'arrêter.
Bon, quand c'est trop beau, en fait, il coupe.
C'est ça. Il a du mal à te regarder, d'ailleurs.
Merci beaucoup, Eric. On vous retrouve donc d'ici quelques semaines pour les 24 heures du Mans. Ça sera sur Eurosport, en intégralité, évidemment.
En intégralité, mais je ne sais pas si on va commenter pendant 24 heures. Enfin, je crois pas.
Il y aura des passages de relais. Merci beaucoup, Eric.
Merci. Et moi, à bientôt.
On enchaîne avec ce peloton, ce midfield en perpétuelle révolution derrière Ferrari et Red Bull qui dominent le classement des constructeurs. On est obligé de faire le constat suivant, Stéphane, impossible d'établir une hiérarchie avec une équipe Mercedes à peine au-dessus du niveau de flottaison, mais qui se débat avec une auto que les hommes de Toto Wolff ne comprennent tout simplement pas. On va évidemment évoquer donc le cas de l'équipe allemande. On parlera aussi de McLaren, hein, qui fonctionne un peu en mode on-off, et d'Alpine, qui donne le sentiment d'avoir laissé déjà pas mal d'occasions de prendre des points cette saison. On débute avec Mercedes, Stéphane, troisième au classement des constructeurs, un petit peu au-devant du gros du peloton, mais pas tant que ça.
Heureusement quand même.
Ouais. Oui. Et qui n'en finit pas de se débattre avec une insaisissable W13. Hein. On fait le point. George Russell, quatrième du championnat, à 45 points de Charles Leclerc. Lewis Hamilton est sixième du championnat, avec déjà 68 points de retard par rapport au Monégasque. Et donc Mercedes, troisième du classement, mais avec 62 points de retard sur Mercedes. Alors, Stéphane, la question qu'on avait évoquée il y a quelques temps, c'était de savoir si Mercedes allait poursuivre sur la lancée de cette F1, de cette W13, sans les pontons.
Oui, les pontons, tu veux dire les pontons réduits dans leur deuxième version des essais de Montmelo près de Barcelone cet hiver. Alors, moi, je dirais quand même que je pense qu'ils vont persister parce qu'ils ont une base. Je me souviens qu'en 2017, la voiture était aussi assez insaisissable. Elle était performante quand même, mais ils avaient insisté et ça avait payé. Et on parle d'un retour potentiel de ces pontons classiques pour le Grand Prix d'Espagne. Je ne sais pas dans quelle mesure il faut y croire parce que ça sera un aveu de faiblesse quand même. C'est ça qui est un petit peu inquiétant. Alors, moi, je m'en remets un petit peu à ce qu'a dit Adrian Newey, qui est un peu inquiétant, entre guillemets, c'est que il a dit chaque voiture a son marsouinage propre, développe ce phénomène de rebond. Et des techniciens comme chez Ferrari ou chez Red Bull qui ont su le résoudre ne sauraient peut-être rien faire face à la Mercedes. C'est ça le vrai souci.
On rappelle qu'Adrian Newey, il est chez Red Bull. Hein.
Voilà, c'est ça.
Donc il leur tacle un petit peu le moral.
Donc s'il devait se pencher sur ce problème-là, ce n'est pas dit qu'il trouverait la solution. Russell dit, on a enregistré des tas de données. Encore ce week-end, on va tout éplucher. Ils épluchent et plus. Et puis, ils ne comprennent rien. Surtout, c'est ça qui est complètement inquiétant.
Surtout si tu reviens sur le Grand Prix de Miami. Vendredi, ils posent la voiture sur le nouveau circuit de Miami. Et la voiture marche, fonctionne. Sans qu'ils puissent expliquer. Un vendredi soir, ils disaient, on ne sait pas. C'est bien, ça marche. Le samedi matin, alors on fait quelques modifications de réglage parce que la piste s'est gommée, parce qu'on essaye d'avancer un petit peu. Alors là, la voiture, ils perdent absolument toute la performance qu'il y a dans l'auto. Alors, ils reviennent en arrière à ce qu'ils avaient la veille, exactement les mêmes réglages, et ça marche plus. James Wolff, qui est le responsable de la stratégie chez Mercedes F1, a même dit à nos confrères de Formula One, vendredi, la voiture faisait jeu égal avec la Ferrari en vitesse de passage en courbe dans le rapide. On était même plus vite que la Red Bull, et tout ça s'est évaporé pendant la nuit. Et je vais te dire la vérité, Stéphane, c'est que j'ai le sentiment que Mercedes est en grande difficulté parce qu'ils vont arriver à Barcelone. Et c'est vraiment un point important là, dans la saison, parce que Barcelone, on a fait les premiers tests cet hiver.
Hein,
c'est là qu'on avait commencé la saison 2022 pour les fous du volant. Et donc, toutes les équipes vont arriver en comparant finalement sur un terrain connu les premières datas qu'ils avaient eues et l'évolution de leur voiture d'aujourd'hui. Sauf que chez Mercedes, c'est la première spécification qui avait roulé à Barcelone et on avait sorti cette Formule 1 sans ponton à Bahreïn seulement, lors des deuxièmes essais libres. Donc en fait, on va rester dans l'inconnu et c'est vraiment ce qui marque en ce moment l'équipe de Toto Wolff, l'inconnu. On ne sait pas trop où ça va.
Oui, alors je me rappelle même, ils sont étonnés à un point, c'est juste incroyable. Allison disait, juste avant les premiers essais, j'imagine que les voitures seront si nouvelles, si différentes, qu'une ou deux seront vraiment ratées. Et elles vivront une année terriblement difficile. Il était loin d'imaginer que Mercedes serait dans ce lot-là.
Oui.
C'est juste absolument incroyable.
Bon, voilà. Ils sont quand même troisième au classement des constructeurs.
Ils sont loin, ils sont décrochés derrière les deux grands. Et puis, ils sont quand même devant aussi nettement le paquet, mais j'ai noté quand même, on a vu Hamilton avoir un mal fou, passer une dizaine de tours pour doubler Magnussen en Arabie Saoudite. Il est resté bloqué derrière, c'était Gasly à Imola, et puis si Bottas n'était pas Bottas, c'est-à-dire que si Bottas n'avait pas fini par commettre une erreur à Miami, les deux Mercedes auraient terminé derrière l'Alfa Romeo.
Et ils n'ont pas donné une consigne.
Incroyable. Donc là, c'est... Ils se battent en fait même pour être la troisième force du plateau. À la régulière, ils le sont. Mais tantôt, c'est une McLaren qui est devant, tantôt, c'est une Alfa Romeo. C'est vraiment compliqué. Je pense pas, moi, qu'ils vont vraiment trouver la solution. Tu te souviens, aussi, Russell avait dit, on va peut-être mettre 5 mois pour résoudre ce marsouinage. On va presque y arriver. En juillet, on y sera.
Alors, et on avait dit, bon, il grossit un peu le trait. Bah, finalement, les semaines et les mois passent et on en est toujours là. Alors, parce que effectivement, on n'arrive pas à résoudre ce problème. Il y a une autre déclaration de Jeff Wolff que j'ai trouvée très très intéressante. En fait, on prend vraiment du temps du côté de chez Mercedes. Au lieu, quelque part, de solder une perte et de repartir de la première spécification de l'auto, tout simplement parce que James Wolff, il a eu une phrase très intéressante. Il expliquait que il y a un vrai choix en matière de stratégie d'ingénierie pour Mercedes à faire là, dans les jours qui viennent. Pour, en fait, non pas savoir si on va pouvoir gagner le prochain Grand Prix ou dans 2 ou dans 3 ou dans 4 Grands Prix, mais ça va vraiment décider de l'avenir, de la direction que va prendre Mercedes en Formule 1 pour les 3 prochaines saisons, 2023, 2024, 2025, et que c'est pour ça, en fait, qu'ils prennent tout leur temps. Ils sont absolument certains que le potentiel de la voiture, de ce concept qu'ils ont développé, est énorme, et quelque part, ce qui s'est passé vendredi, ça leur donne en partie raison. La voiture était rapide, ils n'ont toujours pas compris pourquoi et pourquoi elle l'était, pourquoi elle n'a plus été ensuite, mais quelque part, ça leur a dit au moment, alors que je crois qu'au moment où ils se sont dit, bon, on arrête les frais, on repart sur quelque chose de plus classique, et bien ça leur a fait une piqûre de rappel en leur disant, non, il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'ils vont sacrifier 2022 en se disant, on va travailler pour 2023, pour 2024 et 2025.
La voiture est quand même à 9 dixièmes sur c'est un beaucoup. Tour classique d'une minute 30. 9 dixièmes du temps de la pole position, c'est beaucoup, c'est énorme. Il faut s'assurer d'une chose, c'est que, un, le concept qu'ils ont développé est vraiment mauvais, et que, deux, il y a une voie de développement sur les pontons classiques. Alors, si on les voit réapparaître, ces pontons-là, ça sera vraiment pour faire un comparatif et pour trancher pour l'année prochaine. Mais je pense effectivement que cette année, ils se battent pour la 3e place au championnat constructeur. Et puis, s'ils ont Russell ou Hamilton qui terminent 5e au championnat pilote, ils seront contents.
Exactement. Alors, ça, c'est pour le côté technique, Stéphane. Mais il y a aussi un côté humain que l'on sent commencer à poindre dans cette équipe. On avait déjà noté quelques mouvements d'humeur, des échanges, parfois un peu vifs. Lewis Hamilton, dépassé par George Russell à Miami, et ça a fait du bruit dans la radio chez Mercedes. Lewis, il n'était pas content, il s'est plaint de la stratégie qu'on lui avait décidée. On a eu cette histoire de bagarre là, pour pouvoir porter ses bijoux pendant le Grand Prix. On a le sentiment qu'en fait, c'est toi qui as employé cette expression quand on préparait le podcast, les vents sont contraires pour Mercedes. Et j'ai trouvé ça très bien résumé, parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'en ce moment, tout va contre Mercedes.
On a l'impression que ce n'est pas leur année, tout simplement. En à peu près 24 heures, le nouveau président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a envoyé 2 signaux négatifs à Lewis Hamilton. Il a dit, moi, je ne serai pas celui qui donne une autorisation de porter des piercings, bijoux, etc. Je m'en remets à l'avis des médecins, c'est eux qui ont raison, point. Alors qu'Hamilton avait dit, je vais aller voir le président, je me fais fort d'obtenir une dérogation pour le reste de l'année. Alors souviens-toi, Hamilton nous avait dit aussi, lors des premiers tests du halo, il avait dit, je ne courrai pas en Formule 1 avec ce halo, c'est hors de question, il s'y est fait. Et d'ailleurs, ça lui a servi aussi l'année dernière. Oui. Ça a servi à quelques pilotes et lui spécialement à Monza. Donc le débat est clos là-dessus. Et je pense que, on va dire, il faut raison garder. Il va se plier aussi à ça. Il a encore un joker là à Montmélo. Et puis après, il faut être conforme à Monaco. Alors, amende de 250 000 euros à la clé, graduelle, jusqu'à l'interdiction complète de courir avant de vraiment satisfaire cette règle qui date quand même de 2005.
Oui, c'est ça, on le rappelle, c'est pas une nouvelle règle qui a été instituée cette saison par les nouveaux directeurs de course, c'est pas quelque chose qui est destiné contre Lewis Hamilton, c'est simplement un article de loi sur lequel finalement la Formule 1 ne s'était jamais penchée réellement, en tout cas personne n'avait jamais dit à un pilote « ton collier,
en Formule 1.
Ton piercing, tu me l'enlèves parce que si on doit te passer dans le scanner, ça va pas le faire. Et celui qui se fait vraiment l'apôtre de cette lutte contre cet article, c'est Lewis Hamilton, qui perd de l'énergie. On va pas refaire le débat qu'on a fait la semaine dernière, mais qui perd de l'énergie alors que là, on a besoin d'un Lewis Hamilton, septuple champion du monde, leader chez Mercedes, qui va à l'usine et qui dit, allez les gars, on travaille.
Mais ils font pas l'unanimité, même. pire que ça, c'est qu'en fait, ils ont quand même beaucoup de gens dans le paddock à dos, dont des directeurs d'équipe. Je cite Andreas Seidel, qui est le directeur d'équipe de McLaren, dit « Cette règle anti-bijoux, c'est une règle qui est mise en place depuis plusieurs années, 2005. Si vous avez travaillé dans d'autres catégories, vous savez que ce n'est pas un sujet de discussion. »
Mais oui.
Tout
alors,
simplement,
c'est
en rallye, en endurance, etc.
Lui, c'est l'ancien patron de Porsche, enfin un des responsables de chez Porsche en endurance.
Donc lui, il ne comprend pas.
Voilà. Et si vous avez écouté le début de ce podcast en compagnie d'Eric et Larry, il vous dit la même chose.
Hein. Oui, donc il dit, si vous voulez porter des bijoux et puis... vous ne voulez pas porter de vêtements inifugés, ben vous restez à la maison, tout simplement. Et alors, il y a même plus inquiétant, plus embêtant, je dirais, pour la cause de Lewis Hamilton et de Mercedes, c'est Alex Wurz, le président du GPDA, c'est-à-dire le Grand Prix Driver Association, le syndicat, on va dire, ouais. des pilotes de Grand Prix, qui a dit « le règlement est fait pour de bonnes raisons ». C'est-à-dire la sécurité. Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'ils n'ont pas fait une erreur en laissant Alex Wurz passer à la présidence de ce syndicat des pilotes, parce que Wurz, quand même, habituellement, il est du côté de la FIA. Son nom a même circulé sur plusieurs élections pour le voir comme candidat, postulé à la présidence de la FIA. Donc, lui, il est côté du pouvoir. Voilà. Et je crois qu'ils ont fait une erreur, les pilotes, d'être représentés par ce garçon-là qui est, là, ce qu'il dit, c'est frapper au coin du bon sens. De toute façon, c'est une position qui appelle à la responsabilité, à tout le monde. Voilà.
Sans refaire ce débat. Hein,
mais
parce que,
c'est,
vraiment,
là, le débat va être clos rapidement.
Mais on comprend bien que là, je ne sais pas comment dire, ça fait un petit peu digression,
oui, tout à fait. Là,
distraction
ils sont
inutile
en train de se disperser,
chez Mercedes.
Ils perdent de l'énergie et il y a un deuxième point. Donc aussi sur une prise de position du président de la FIA, qui a dit, en fait, moi j'ai jamais dit que Michael Massey avait été limogé de la FIA. Il fait toujours partie de la FIA et on pourrait même l'utiliser l'an prochain parce que qu'on ait trois directeurs de course l'an prochain et dont lui.
Ça, c'est potentiellement aussi une mauvaise nouvelle pour Mercedes. Et alors là, tout particulièrement pour Toto Wolff. Hein, vous vous souvenez de l'épisode en fin de saison dernière, Michael Massey, qui était le directeur de course, qui a eu quelques ratés pendant la dernière épreuve de la saison. Il s'est fait agonir par Toto Wolff. Et le nouveau président de la FIA, qui avait commencé par écarter l'Australien, eh bien finalement a dit qu'il pourrait peut-être le ramener parce qu'on s'est rendu compte à Miami qu'avoir deux directeurs de course, Nils Wittich et Eduardo Freitas, ça suffisait peut-être pas parce que Eduardo Freitas était pris du côté de Spa pour l'endurance. Nils Wittich était positif au Covid quelques jours avant et on s'est dit on a personne sous la main. Donc il va falloir clairement augmenter un petit peu le volant de directeur de course. Et puis surtout, à la FIA, on s'est aperçu que Michael Massey, il faisait un nombre de choses incalculables et qu'il ne pouvait pas tout faire.
Je t'arrête un petit peu là-dessus. Il n'arrive pas à faire le job que faisait très bien Charlie Whiting. C'est-à-dire que c'est lui qui a choisi d'en faire quelque chose multifacette en s'occupant de la technique, du sportif, de gérer en direct, les réclamations des directeurs. Il s'est perdu là-dedans tout simplement et on l'a laissé faire. Voilà. C'était une dérive, clairement. Alors moi, ce qui me gêne sur un retour de Michael Massey, c'est une position très personnelle que j'ai, mais Michael Massey n'a pas exprimé de regret sur ce qui s'était passé, sur cet énorme couac, ce fail démentiel qu'on a eu sur la fin du championnat que tout le monde attendait, je dirais, conforme un petit peu au règlement, tout simplement. On appliquait le règlement, on avait une fin sous safety car. Bon, voilà, Hamilton,
c'était dommage, mais c'était légal.
Mais il n'a jamais dit simplement j'ai fait une erreur ou j'ai voulu bien faire, ça s'est retourné contre moi, ça partait d'une bonne intention. Il est dans le déni. Toto Wolff l'a vraiment taclé sévèrement il n'y a pas très longtemps et effectivement cette perspective de le revoir, je trouve que c'est pas une très bonne nouvelle parce qu'il a pas fait son autocritique là-dessus.
Ouais, et en tout cas c'est un directeur de course potentiel avec lequel clairement Mercedes a un contentieux. Donc ça veut dire que ça aussi ça charge un petit peu. Alors c'est pas ce qui fait marsminer la voiture pour l'instant. Hein. Faut pas non plus tout exagérer. Mais voilà, les vents sont contraires pour Mercedes.
Il y a quelque chose de très négatif dans le
ce heureusement, qui heureusement qu'il y a George Russell.
Ça
en fait,
doit être dur de s'accrocher quand même au sein de l'écurie en ce moment. C'est à tous les niveaux, ça va pas bien. Quoi. Y a pas, on sent pas que ça crée pas de dynamique. De toute façon, c'est impossible.
Pas de dynamique chez Mercedes. On va voir maintenant le cas de McLaren, qui est à mes yeux encore plus représentatif de la difficulté qu'on a en ce moment à saisir ce qui se passe au sein de chaque équipe. À Barcelone, pendant les premiers tests de pré-saison, la MCL36, hein, la McLaren, paraissait plutôt bien née. Elle avait fait des bons chronos. Et puis, plus rien. Aujourd'hui, McLaren est quatrième au classement des constructeurs, mais avec un total de 46 points. Lando Norris est septième avec 69 points de retard sur Charles Leclerc. Quant à Daniel Ricciardo, il est en 11e position. Il y a eu ce podium à Imola qui est venu un petit peu, selon les circonstances, hein, la sortie de piste de Charles Leclerc, qui a permis donc à Lando Norris de monter sur le podium, mais zéro point ramené à Miami. Et alors, il y a effectivement eu l'accrochage entre Lando Norris et Pierre Gasly, mais Andreas Seidel, qui est donc l'un des responsables de l'équipe, a dit de toute façon, même sans cet accrochage, on ne pouvait espérer au mieux qu'une 8e place avec Lando, ouais. ce qui est plutôt honnête. Et McLaren a été de très très loin l'équipe la plus active en relations publiques, hein, pendant ce Grand Prix de Miami. Ah bah là, le box de chez Miami, attention, hein, c'était la croisette. Ah, c'était la croisette, hein, c'était Paris Hilton et tout, et voilà, vous pouvez y aller. McLaren a aussi annoncé qu'ils arriveraient en Formule 1, en Formule E, la saison prochaine. Hein, ils rachètent Mercedes EQ. Ils sont aussi en IndyCar. Ils font un peu beaucoup de choses. Zak Brown est un peu partout. Et quelque part, je me demande si on ne paye pas un petit peu ça.
Oui, alors j'en viens aux essais de pré-saison, en fait. Ils avaient eu un coup d'arrêt à cause d'un problème de surchauffe de frein.
Oui.
À cette époque, et je crois que même sur une journée, ils n'avaient quasiment pas tourné à cause de ça. Gros problème de frein, de température. Et c'est aussi ce qui les a empêchés de bien rouler à Miami. Et l'année dernière, souviens-toi, Gilles, c'est ce qui empêchait aussi Ricciardo d'être performant. Il n'encaissait pas le système de freinage de la McLaren. Et là, avec un freinage délicat, je pense qu'il n'est pas du tout à l'aise.
Clairement. Ça se voit. Hein.
Alors, ça explique le 5-0 qu'il a pris aussi par Norris en qualification. Il est toujours derrière, mais là, il était absolument nulle part, 13e, très très loin. On ne l'a pas vu. C'est catastrophique. On lui demande même de faire des choses un petit peu expérimentales du point de vue des pneus. Donc là, c'est perdu pour perdu, on y va, quoi. Donc on essaie d'apprendre des choses. On transforme le Grand Prix en séance d'essai. Donc là, chez McLaren, on est parti assez loin quand même.
Oui, et puisque tu parles de Ricciardo, il doit vraiment sentir l'étau se resserrer autour de lui, parce qu'à Miami, il y avait un jeune homme qui s'appelle Colton Herta, qui roule en IndyCar, jeune pilote américain, très talentueux. Et bien, figurez-vous qu'au mois de juin, Colton Herta, il sera du côté de Woking pour mouler un baquet, pour monter dans la McLaren de l'année dernière, faire un test déjà dans la McLaren 2021. Et alors, il y a des interviews de Colton Herta qui dit très clairement, ah, mais moi, être en Formule 1, ça fait partie de ma to-do list, et c'est plutôt en haut de la liste des choses que je veux faire dans ma carrière. Ça commence à sentir un petit peu chaud pour Daniel Ricciardo. Et alors, pour couronner le tout, on lui a demandé un truc mais délirant là, pour ce Grand Prix de Miami. Moi, quand j'ai lu ça, je dis non, j'ai mal lu. Explique-nous, Stéphane.
Eh bien, on lui a réduit la quantité d'eau dans sa gourde au départ. Alors,
pour gagner du poids.
Voilà, c'est ça. Pour gagner du poids, je ne sais pas quelle quantité il avait exactement. Daniel Ricciardo dit, on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir une gourde qui fait 3 litres, qui a 3 litres d'eau. Mais je dirais que là, ça pose quand même un problème parce que les conditions étaient extrêmement dures.
Il faisait chaud,
c'était
humide.
Tous les pilotes, voilà, ont comparé ce Grand Prix pour sa chaleur et ses conditions à l'ancien Grand Prix de Malaisie, au Grand Prix de Singapour aujourd'hui. C'est absolument éprouvant. Est-ce que c'est, décent d'obliger des pilotes à courir comme ça avec une telle quantité d'eau? Moi, je trouve que ça pose une vraie question parce que ça les met quelque part aussi en danger.
Oui.
En fin de course, il y a des problèmes de lucidité. Ça peut créer des accidents. On a vu des choses du côté de Fernando Alonso. La course était extrêmement dure. Je trouve que là, il faut envoyer un gros warning à la FIA en disant qu'il faut arrêter ça. Il faut obliger les pilotes à emporter des quantités, je dirais, correctes.
Minimales, obligatoires.
Même si on leur demandera de tout boire dans le tour de formation, ce que j'imagine. Hein. Mais au moins, on part avec ça et puis on les hydrate complètement parce que je trouve que c'est une vraie dérive dangereuse.
Ouais, exactement. Et donc, chez McLaren, bah, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner du côté de Barcelone. Lando Norris continue de dire que la voiture ne génère pas assez d'appui. C'est vraiment le cœur, le nerf de la guerre. Hein. Pour une Formule 1, il faut générer de l'appui pour tenir au sol. Et après, ouais, vous pouvez espérer faire des performances. Tant que vous n'avez pas d'appui, vous êtes battu. On a parlé de Mercedes. On a parlé de McLaren, on va évoquer maintenant le cas de Alpine. Et là, on en est presque au stade de la douleur pour nous, parce que bah, on est un petit peu cocardier.
Oui,
c'est une équipe française. Et qu'en plus, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup d'ingrédients pour briller au sein de cette équipe. Personnellement, moi, l'approche qui avait été celle de Laurent Rossi sur l'aspect ambitieux d'abord, fiable ensuite, bah, je trouvais que ça avait plutôt du panache dans l'idée. Il faut qu'on fasse un moteur capable de rivaliser avec Mercedes, avec Ferrari, avec Red Bull, quitte à avoir des problèmes de fiabilité. Puis on les réglera ensuite. Moi, je trouve ça plutôt, allez, je vais lâcher le mot, couillu. J'aime bien ça. Ocon a fini 4 fois sur 5 dans les points, mais sans jamais rentrer dans le top 5 sur une course. Il pointe au 9e rang du championnat. Alonso, lui, il est 16e du championnat à égalité de points avec Lance Stroll. Voilà.
Ouais, c'est choquant.
Ça, c'est un constat. Alpine est 6e au classement des constructeurs avec 131 points de retard sur Ferrari. Je disais, on a le sentiment que c'est une suite d'occasions manquées en fait depuis le début de la saison pour Alpine.
Tu me l'enlèves de la bouche. Alors pourtant, il y a des bonnes bases. Hein. Je vois juste sur les Q3, il y a 4 présences sur 5 en Q3. Et la dernière, ça a été raté de justesse, c'est une 11e place. Donc tout ça, c'est vraiment très très correct. Sur les premiers Grands Prix, on pensait vraiment, moi j'étais persuadé qu'ils pouvaient challenger Mercedes.
Oui, être la troisième équipe.
Ouais. Troisième force du plateau, c'était vraiment l'objectif. Ça doit rester l'objectif. De toute façon, on sait qu'il y a un gros potentiel là-dedans, ça c'est sûr. Alors concrètement, on bosse chez Alpine. Alonso a dit, il y a des bonnes idées à l'usine, il faut les mettre maintenant sur la piste. Otmar Szafnauer, le directeur de l'équipe, a annoncé donc des grosses évos pour ce Grand Prix numéro 6 à Montmélo, pour le Grand Prix numéro 8 à Bakou et pour le Grand Prix numéro 10 à Silverstone. Donc c'est assez rythmé et il a dit ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donc on a du potentiel, mais attention à la production des pièces parce que Ocon a quand même fait pas mal de casses à Miami et Laurent Rossi nous avait dit l'année dernière que tout ça, ça compte vraiment, ça pèse dans le budget et il faut faire attention à toutes ces choses-là.
Alors, tu as parlé d'Otmar Szafnauer. Je vais quand même rappeler hein, qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans le staff dirigeant de cette équipe alpine. Le départ de Marcin Butkowski, celui de Alain Prost. Donc, Otmar Szafnauer est arrivé en provenance de Force India. Non, c'était Aston Martin. Et puis Bruno Famin aussi,
oui,
qui a pris la direction de l'unité des moteurs du côté.
Rémi Taffin, l'historique.
Voilà, du côté de Viry-Châtillon.
Des moteurs.
C'est quand même des grosses restructurations d'organisation en plus. Ouais. Hein, c'est vraiment des personnes qui sont absolument cruciales. Et à mon avis, Alpine paye sans doute plus cette restructuration-là, le temps qu'il faut pour découvrir. Il y a des articles très intéressants hein, qui expliquent le travail que fait Otmar Szafnauer en ce moment. Déjà, aller voir comment ça se passe en Angleterre. Il faut aussi aller voir du côté de Viry-Châtillon comment ça se passe. Et qu'en fait, c'est qu'une question de temps avant que les résultats commencent à arriver. La problématique, Stéphane, c'est que on n'est pas tous sur le même calendrier. Fernando Alonso, lui, du temps, il n'en a pas. Parce que Esteban Ocon est en contrat jusqu'en fin 2024, qu'il est jeune encore, Fernando Alonso, ouais. Et ça y est, lui, son temps en Formule 1 est compté, il n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Il voit tout ce qu'on mise, tout ce que dit Laurent Rossi de Oscar Piastri, qui est sans doute la future vedette. En tout cas, l'Australien, il est présenté comme ça par le patron de l'équipe Alpine. Donc Alonso, eh ben, il faut qu'il fasse ses preuves tout de suite, parce que s'il n'est pas reconduit chez Alpine, il faut qu'il trouve un autre volant. Et je pense que c'est ce qui le pousse à surjouer un petit peu, à surpiloter en faisant des attaques. On parlait de Miami, l'attaque sur Gasly.
C'est étrange.
Elle oui, est bizarre, elle est bizarre.
Elle est mal calibrée, c'est une erreur de jugement dont on n'a pas l'habitude venant de lui, c'est vrai. Là, il donne tout ce qu'il a aussi. Il y a eu quelques frustrations, des belles places de qualification qui ont été gâchées par des tout petites défaillances techniques. Décision autour de Silverstone, on nous a annoncé ça. Mm-hmm. Je pense que s'ils veulent mettre Piastri dans la voiture, on nous annoncera peut-être sa signature avant, je dirais, avant que. Et puis on laissera Alonso après se débrouiller et il y a de plus en plus de choses qui circulent sur la prochaine retraite de Vettel. Mais s'ils veulent le garder, il faudra trouver une place de toute façon ailleurs à Piastri. La cible numéro 1, c'est Williams. Mm. Mais Toto Wolff n'en démord pas. Il veut placer Nyck de Vries chez Williams l'an prochain. Il va le faire rouler en essai libre 1
à voilà. Barcelone.
Exactement. Donc, là, tout ça, ça. Là, maintenant, ça va être la bagarre. On va dire ça comme ça, ouais. Une lutte d'influence pour placer ces pilotes. Et on parle souvent du Grand Prix de Monaco comme la silly season, là où on lance un petit peu toutes les rumeurs de transfert, toutes les possibilités. Tout le monde fait le tour du paddock. Mais je crois que c'est déjà parti. Ouais. Mais je dirais qu'Alonso, il se bat et que son premier choix, c'est Alpine parce qu'il a investi toute la saison dernière là-dessus. Et puis, parce que Alpine est en train de dealer une fourniture moteur à Andretti. Andretti qui l'avait fait rouler aux 500 miles d'Indianapolis. Et ça, son objectif aussi, c'est la triple couronne et de gagner les 500 miles. Donc, avec une connexion, il pourrait piloter pour Andretti aux 500 miles d'Indianapolis. Et puis, s'il en prenait pour 2 ans, parce que c'est ce qu'il espère, il pourrait aussi rouler au Mans avec Alpine. Donc, lui, il a un projet, il a un beau package. Ouais, il voit ça arriver. Et donc, il s'accroche, il a complètement raison.
Et c'est clair. Et ce qui est un petit peu particulier pour conclure sur cette situation chez Alpine, c'est qu'on a le sentiment que, finalement, il faudrait peut-être trouver une solution concernant Piastri pour ensuite trouver une solution concernant Alonso pour ensuite retrouver un petit peu de sérénité et refaire fonctionner cette équipe Alpine qui travaillait très, très bien la saison dernière, ouais. Et qui là est un petit peu prise parce que les agendas des uns et des autres concordent pas tout à fait.
Ouais. Mais alors moi je dirais juste une petite chose, c'est que sur Alpine, j'aimerais quand même que Piastri soit mis dans la voiture parce que je ne voudrais pas qu'il aille chez McLaren, par exemple, qu'il fasse une saison complète, une belle saison, qu'il remporte sa première victoire. Si tu veux, si c'est un pilote que tu as formé depuis longtemps, tu as envie de le faire débuter et puis tu as envie qu'il commence à construire son palmarès avec toi parce que tu crées une image autour de lui. Et je trouve que ça serait un petit peu bizarre de le faire débuter ailleurs. Donc moi, ma préférence, ça serait plutôt Piastri et puis ça serait l'avenir de toute façon. Et on se retrouve un petit peu dans le processus que Renault avait fait pour Alonso. Il l'avait signé en 2003 avec l'objectif vraiment d'une montée en puissance pour viser le titre mondial à partir de 2005. Et c'est exactement ce qui s'était passé.
Alors écoutez, peut-être que l'histoire est un éternel recommencement en Formule 1 aussi. On va passer au duel entre Charles Leclerc, Ferrari et Max Verstappen, Red Bull. Leclerc et Ferrari qui sont au départ de ce Grand Prix d'Espagne à portée de tir désormais de Verstappen, puisque Max Verstappen est revenu à 19 points au classement des pilotes du Monégasque. Et Red Bull est revenu sur les talons. Hein. Je crois qu'il y a 6 points de retard pour Red Bull par rapport à Ferrari. Quand on voit l'évolution là, sur les 5 premiers GP de la saison, il y a une sorte, j'allais dire, de sentiment d'inéluctable. Ça va arriver. Red Bull et Max Verstappen vont repasser devant. D'abord parce que on va s'intéresser à deux niveaux, si vous le voulez bien. D'abord, le rapport de force entre les dynamiques chez les pilotes. Max Verstappen, je faisais le calcul, en fait. Chaque fois que la voiture lui a permis de terminer un Grand Prix, il a gagné. Trois arrivées,
plus
la course sprint, hein, effectivement, voilà. En Émilie-Romagne. Bon, c'est pas mal. En face, c'est beaucoup plus compliqué, hein, Stéphane, du côté de Charles Leclerc, sorti à Imola, qui n'a rien pu faire à Miami.
Oui, il a fait 2 petites erreurs, une peut-être qui n'était pas exactement de son ressort. La voiture était un petit peu difficile, mais c'est ce qui a créé l'opportunité à Max Verstappen. Et puis derrière, il fait une faute qui lui fait perdre le contact complètement. Et c'est de là qu'on s'est dit là, qu'il fallait un petit peu creuser pour voir, parce que c'est Eric Hélary qui nous l'a dit. Au début de ce podcast, il fait encore un peu trop d'erreurs. Mm-hmm. Nous, on aime beaucoup Charles Leclerc, mais
Là maintenant, il n'a plus droit à l'erreur parce que Verstappen n'en fait pas, tout simplement. Alors, on nous dit une chose, c'est que Verstappen et Leclerc étaient concurrents en karting. Ils ont d'ailleurs terminé leur carrière de kartman en 2013 tous les deux, sauf que on oublie une chose, c'est que Verstappen a commencé la Formule 1.
En fait, je te coupe avant que tu enchaînes. On fait le parallèle parce que effectivement, ils ont fait toute leur carrière de karting ensemble, qui sont nés à quelques semaines d'écart. C'est vraiment la même génération. Hein. C'est à quelques semaines d'écart, ils sont nés ensemble. Donc on se dit, c'est la même génération, mais il y en a un qui est allé plus vite que l'autre. Il faut nuancer quand même.
Oui, parce que Helmut Marko est toujours pressé chez Red Bull d'envoyer en fait ses pilotes au feu parce que lui, il adore les mettre sous pression. Et là, il se dit, je vais voir quel caractère
ils ont en eux.
Tout à fait. Donc, il a tout de suite mis Verstappen, même fin 2014, dans la Toro Rosso. Et puis, il l'a fait débuter chez Toro Rosso en 2015. Donc, Max Verstappen a eu 3 saisons complètes avant l'arrivée de Charles Leclerc en Formule 1. Et ça, on l'oublie trop parce que Max Verstappen, il a fait une saison de Formule 3 et puis ensuite, il est passé aux essais en F1 et puis après concrètement il est entré en grand bain alors que Charles Leclerc a fait je dirais plus studieusement ses classes avec des titres en GP3 en F2 même en alors il a fait une saison aussi en Formule Renault bref il est arrivé en 2018 alors ça veut dire quoi ça veut dire que quand on réfléchit bien un petit peu quand on observe la carrière de Max Verstappen il faisait beaucoup d'erreurs dans ses 4 premières saisons on en a même eu 3 à Monaco. Oui. 2015, il percute Grosjean. 2016, il tape à la sortie du S de la piscine. Copie conforme de l'accident en 2018. Mmh. Et puis en 2019, ça y est, enfin, il commence un petit peu à je dirais, être plus calme, plus réfléchi. Helmut Marko lui avait donné un très très bon conseil. Il dit il faudrait que Max comprenne que la Formule 1, ce n'est pas être tout le temps à fond. Ça, c'était à Monaco en 2018. Il en avait tiré les enseignements. Eh bien, c'est à partir de sa quatrième. Après ces 4 saisons de formation qu'il avait mûri. Je dirais que Leclerc est dans sa 4e saison cette année. Il fait encore un petit peu des erreurs. Il n'a pas l'acquis d'une campagne de lutte pour le titre mondial comme l'a eu Verstappen. Verstappen oublie à quel point Hamilton l'a rendu meilleur pilote l'année dernière. Et il y a encore, moi je trouve, un décalage. Et c'est pour ça que Leclerc n'est pas encore tout à fait parfait à ce niveau-là.
Si on complète le tableau, Carlos Sainz qui se présente en Catalogne, chez lui, Grand Prix d'Espagne, beaucoup de pression. Ça fait des années et des années qu'il y a vraiment beaucoup de monde autour de Carlos Sainz sur les Grands Prix d'Espagne. Sauf que là, cette année, il arrive avec une Ferrari, ce qui était déjà le cas l'année dernière, d'accord, mais avec une Ferrari qui gagne des courses. La pression va être énorme sur Carlos Sainz qui sort de 3 Grands Prix où il est sorti de la piste, soit en essai, soit en course. Donc ça va être quand même particulièrement difficile pour l'Espagnol. Ça, c'est pour le rapport de force, on va dire, côté pilote. Si on s'intéresse maintenant aux équipes, il y a une sorte de course à l'évolution, en fait, hein, entre Ferrari et Red Bull. Ferrari qui a mis du temps avant de se lancer dans de nouvelles évolutions sur sa F1-75, puisque c'est son autre code. Il y a une part de logique. D'abord, ils étaient devant, donc il n'y avait pas d'urgence finalement à amener des évolutions. Et puis, c'est un des effets que l'on voit maintenant concrètement du budget cap, c'est que faire des évolutions, fabriquer des nouvelles pièces, ça coûte de l'argent. Et qu'avec le budget cap, les équipes, elles commencent à calculer en se disant « Attends, ça ne sert à rien de modifier un petit peu le truc comme ça, et puis après pour le Grand Prix d'après, modifier comme ça. On va attendre un Grand Prix et on va collecter des datas et on va faire une seule modification. » Donc, il y a eu un petit peu moins d'évolution chez Ferrari. Et puis, il y a quelque chose de très, très humain. Hein. Quand vous ne comprenez pas exactement pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça marche dans le cas de Ferrari, oui, surtout ne touche pas. Parce que si ça se trouve, on va toucher un truc et on va plus rien comprendre. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, Stéphane, du côté de chez Red Bull, on a repris le rythme de développement qu'on avait l'année dernière face à Mercedes.
Ouais. Et là, on va être dans la guerre du développement quand même ce week-end, puisque Ferrari annonce une grosse évolution, vraiment. Objectif, se débarrasser définitivement du marsouinage.
Il y a deux axes, hein, le marsouinage
et puis réduire la traînée, c'est-à-dire l'effet parachute
qui
freine en fait les ailerons qui freinent la voiture pour avoir plus d'efficacité aérodynamique. Tout le monde annonce la Ferrari comme dominante sur ce circuit de Mugello parce que cette voiture adore les courbes rapides et même Red Bull le reconnaît, mais Red Bull ne sait pas. N'est pas resté les bras croisés. Là, ils annoncent vraiment une voiture maintenant au poids. C'est Helmut Marko qui l'a dit. Donc, la voiture était 10 kg au-dessus du poids normal avant le début de la saison.
Ouais, il y a 5 Grands Prix.
Il y a 5 Grands Prix. Ils ont mis 6 Grands Prix, en fait, pour réduire, en fait, par l'apport de nouvelles pièces, réduire ce poids. Alors, sur un circuit comme Montmélo, 10 kilos quand même, gagner 10 kilos, c'est 4 dixièmes au tour. Donc, c'est quand même pas rien. Et Gilles, quand même, souviens-toi d'une chose aussi, c'est que ça nous annonce le retour du lest en Formule 1, puisque les voitures étaient au-dessus du poids. Alors, pendant de nombreuses années, les ingénieurs ont été capables de fabriquer des voitures qui étaient très en dessous du poids normal, limite demandé. Je ne sais pas si je me trompe, mais à l'époque, on a eu une époque où il y avait 60-80 kg de lest sur les voitures avec des plaques de tungstène mis dans l'aileron avant, mis aux différents endroits stratégiques autour du centre de gravité de la voiture parce que on fabriquait ça avec des matériaux qui étaient très très légers. Là maintenant, en fait, on va recommencer à gagner du poids. C'est une course au poids qui va continuer pour placer du poids surtout en bas de la voiture pour améliorer le comportement routier. Donc, on est là-dedans.
Il y a des programmes de régime qui ne peuvent pas se vanter de tel résultat. Hein. 10 kilos, 10 kilos en quelques semaines, ça fait rêver. Alors, ça, c'est effectivement du côté des axes sur...
Ouais, et
puis, comme tu le disais, le poids aussi, ça sera vraiment le nerf de la guerre, ça, tu l'as évoqué. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Moi, j'ai pas le sentiment, alors je suis pas allé regarder toutes les photos, mais j'ai pas le sentiment qu'on ait vu une Red Bull identique lors de 2 Grands Prix successifs. On a tout le temps amené des petites choses. Un fond plat un petit peu plus ouvert pour lutter contre le marsouinage. Vraiment, on n'a pas arrêté d'amener ce genre de choses. Et moi, je me demande si à un moment, avec toutes ces dépenses, on va pas dépenser toute son enveloppe du côté de chez Red Bull. Éventuellement, grâce à ça, prendre l'avantage sur Ferrari à un moment dans la saison, sauf qu'à un moment, quand vous n'avez plus d'argent pour faire du développement, ben ça y est, c'est fait, et maintenant, il faut aller jusqu'au bout comme ça. Peut-être que ça va revenir en arrière. Il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. On dépense peut-être un petit peu plus en ce moment. J'en sais rien, hein. j'ai pas les vues sur les comptes de Red Bull et de Ferrari, ça m'intéresserait, mais j'ai pas eu les codes. Donc, on dépense peut-être un petit peu plus en ce moment du côté de chez Red Bull pour rattraper le retard qu'on avait pris par la force des choses, puisque Ferrari travaillait déjà l'année dernière sur la voiture de cette année. Et on risque à un moment d'être rattrapé par le budget cap.
Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont apporté des petits correctifs pour voir si ils pouvaient creuser dans certaines directions. Et puis, les circuits ne sont pas du tout les mêmes. Rien que le dernier circuit à Miami, le bitume était complètement... je dirais inhabituel, avec ce mélange de granit.
Et inadapté. En
fait. Voilà, exactement. Et donc, ça, c'était un peu un one-shot. Donc, il fallait faire très attention à tout ça. Mais tu emmènes toujours un petit aileron, enfin, un aileron un petit peu différent en fonction du circuit. Tu cherches un peu des choses. On n'a rien vu de très, très spectaculaire. Bon, Ferrari annonce quand même un nouveau plancher. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et là, alors ça, c'est une information de la Gazzetta. Normalement, ça va leur faire gagner 3 à 4 dixièmes au tour. C'est juste spectaculaire. On attend de voir quand même.
Hein. Ouais. Parce que là, ces chiffres, ils me paraissent
franchement,
toujours assez
gagner
incroyable.
Un dixième déjà, c'est bien. Faut aller les chercher. 3 à 4, ils sont peut-être très optimistes. Bon, on verra.
Bah, c'est tout le mal qu'on souhaite. Tout ça pour dire que, en guise de conclusion peut-être, Stéphane, j'ai le sentiment que la pression, ce week-end, elle est chez Ferrari. C'est quitte ou double, en fait, pour la Scuderia. Il y a une obligation de performance pour les évolutions qui vont arriver ce week-end. Pourquoi ? Parce que le championnat, à partir de ce week-end, va aborder une séquence de 8 Grands Prix en seulement 11 semaines. Et donc, si les évolutions qui vont rentrer en fonction là, à Barcelone, ne marchent pas, derrière, en 11 semaines, vous vous retrouvez fin août, reprise du championnat à Spa, les 2/3 du championnat sont passés et vous avez perdu la bataille.
Oui, tout à fait. Alors, dans les équipes, en plus, ce qu'on nous dit, c'est que là, c'est le temps au mois de mai de la préparation des kits Monza, etc., même pour la fin de la saison. C'est-à-dire que les équipes, là, en sont à ça, c'est ce qu'elles font actuellement. Et si elles n'ont pas de quoi réagir avant le break, si elles n'ont pas la bonne formule, je crois que c'est fini. En plus, pendant le break, les ordinateurs ne tournent pas.
Et oui, c'est vraiment. C'est obligatoire. Hein. Voilà. Ça, c'est contrôlé par
les usines. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, on expédie les affaires courantes, mais il n'y a pas un technicien qui est là pour développer. Donc, ça peut. Oui, je pense que c'est là qu'on va vraiment voir qui en a sur la pédale.
Exactement. Ce Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Catalogne, donc, qui va débuter ce week-end, vendredi, avec les premiers essais libres à 14h. Ouais. La qualif sera samedi à 16h et le Grand Prix est dimanche à 15h, sixième rendez-vous de la saison. Et on a envie de dire que là, on est peut-être à la croisée des chemins dans cette saison 2022.
Grosse pression sur Ferrari qui n'a pas gagné à Montmello depuis 2013.
Ah, j'avais pas ce voilà. Chiffre.
C'est pas très habituel chez eux, donc bon, faut aussi renouer avec ce passé. C'est une victoire de Fernando Alonso à l'époque.
La petite stat en plus de Steph Vrignot. Merci mon Steph pour ce joli numéro des Fous du Volant. Merci à Eric et Larry aussi de nous avoir rendu visite, à Adrien Yo qui assure la mise en image. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon Grand Prix d'Espagne ce week-end. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour les Fous du Volant. Et d'ici là,
on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.